Les Clairvoyants est un podcast Geekzone dont la production n'est possible que grâce au soutien financier de nos abonnés. Si vous aussi vous voulez soutenir la production de nos podcasts, abonnez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 86e épisode des Clairvoyants.
Les Clairvoyants.
Before we get started, does anyone want to get out?
Les Clairvoyants, 86e édition, on se retrouve avec un petit peu de retard en fait. Hein. On n'a pas fait d'épisode le mois dernier, mais on a eu plein de petits problèmes personnels tous, chacun, et donc ça a été un peu compliqué. Donc là, on est de retour, et oui, on va enfin pouvoir parler de Moon Knight. On fera un focus sur Moon Knight, et on décortiquera bien évidemment le trailer avec mes acolytes Fox et Archeon. Salut les gars.
Hello.
Salut tout le monde.
On va donc parler du MCU en long et en large, comme tous les mois, avec les news, et puis on fera aussi un focus, donc comme je le disais, sur Moon Knight. On écoutera de la musique, on fera des recommandations de lecture, on fera un peu de spéculation et on répondra à vos questions dans la rubrique courrier. On fera aussi un flashback sur un ancien épisode dans la rubrique Quantum Trip et je vous propose qu'on y aille tout de suite avec les news, avec la rubrique True Believers.
God, we haven't caught up in a spell, have we? The Avengers broke up. We're toast.
Broke up? Like a band? Like the Beatles?
True Believers, c'est notre rubrique news du MCU. On va bien évidemment parler d'abord de Moon Knight, hein, puisque le trailer est sorti. On a une date de sortie aussi, c'est le 30 mars. Alors, ça vous a chauffé le trailer? On en reparlera en détail hein, tout à l'heure, mais on va déjà peut-être en toucher un mot quand même.
Oui, oui, beaucoup.
Carrément.
Ce oui susurré, ça en dit long, quoi. Oui.
Fais-moi du mal, Oscar Isaac.
Je vais vous faire une confidence. Enfin, je vous l'avais déjà fait hors antenne, mais c'est vrai que c'est un personnage que moi je connais pas du tout dans les comics, et donc je suis très intrigué par ce qu'on m'en a dit. Et le trailer m'a bien saucé. En tout cas, il y a un petit côté un peu légion comme ça qui me plaît beaucoup. Et puis, Oscar Isaac a l'air vraiment au taquet dans son rôle. Donc moi, je suis assez impatient de découvrir ça. Donc voilà.
Moi, je suis chaud aussi. Alors, il m'en faut un peu plus que ce qu'ils ont montré pendant le trailer pour vraiment me hyper. Mm-hmm. Maintenant, je la prends prudemment. Mais en tout cas, on en reparlera pendant le débrief, mais il y a pas mal de petits trucs qui m'intéressent. Ouais. Ouais.
Donc ça, c'est pour Moon Knight. On y reviendra donc tout à l'heure en long et en large. Et puis, j'ai apparemment zappé la news, parce que je pense que ça avait déjà été annoncé, mais j'en avais pas parlé. Marvel Studios prépare un Halloween Special pour Disney+. Et alors, apparemment, ce serait un truc qui tournerait autour du personnage de Werewolf by Night, que je ne connais pas non plus, qui serait donc incarné dans la série par Gael Garcia Bernal. Et on parle aussi au cast de la présence de Laura Donnelly, de la série excellente série de Nevers. Mm-hmm. Mais on n'a pas d'infos sur son rôle. Alors, est-ce que c'est un personnage que vous connaissez, vous, Werewolf by Night?
On va en parler très brièvement pendant le focus, ouais. Parce que c'est là où est apparu Moon Knight pour la première fois. Je sais pas si c'est fait exprès ou quoi, mais ouais,
c'est possible. Lien,
je pense, ouais. Mais après, à part ça, non, pas plus que ça. C'est pas un perso que je connais des masses, non. Mm-hmm.
Donc voilà, pas plus d'infos pour le moment, mais on en reparlera évidemment quand ça se concrétisera, mais si c'est pour Halloween, donc c'est pour d'ici la fin de l'année. On a eu des news aussi côté Loki, on savait qu'il y avait une saison 2 en chantier, le tournage a commencé, et notre chère Ravonna sera de retour, donc bon, ça c'est pas vraiment une surprise en fait. Hein.
Non, c'est bien, je suis très content qu'il y ait une saison 2, et Ravonna, on a encore des trucs à régler avec elle de toute façon.
C'est clair. Black Panther Wakanda Forever, je sais plus si je l'avais dit, probablement pas puisque on n'a pas fait d'épisode le mois dernier. Le tournage donc aurait donc repris depuis fin janvier et a priori avec Letitia Wright. Donc apparemment pas de changement pour la date de sortie, c'est toujours prévu pour le 11 novembre 2022. Donc voilà, ils ont visiblement réussi à régler leurs petits soucis, qu'ils soient réels ou bien plutôt liés à Covid. On ne saura jamais vraiment, à mon avis, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire et on s'en fout un peu. Blade, ça commence à bouger. Apparemment, il y a eu une photo sur Instagram d'une réunion de préparation entre le scénariste Stacy Ossé-Koufour, Mahershala Ali et Kevin Feige. Donc voilà, on pressent le film pour 2023. A priori, la pré-production a commencé. Vous êtes comment, vous, par rapport à Blade en termes d'attente?
Assez chaud. Genre, je suis pas du tout chaud de voir Mahershala Ali reprendre le flambeau. Mais... Non.
Entre je suis pas... le oui susurré de tout à l'heure.
C'est ça, c'est chaud. Ah, et ce que tu veux, c'est des personnages que j'aime beaucoup.
Non, mais je te comprends. Je te comprends totalement. C'est clairement Blade. Alors, encore une fois, maintenant, je vais essayer d'éviter de trop me hyper d'un coup, mais c'est... Il y a un coup à faire sur Blade, là, c'est super intéressant, avec toutes les licences qu'il y a autour, en plus. Hein.
C'est clair, avec Black Knight, justement, on en parlait tout à l'heure,
Midnight Suns, hein. Ouais, c'est les Midnight Suns, donc je suis assez chaud de voir ce qu'ils vont pouvoir en faire. Et puis Blade, c'est le premier super-héros Marvel qui a bien marché au cinéma, faut pas oublier, quoi.
C'est clair, donc, c'est clair. On attend ça donc pour 2023, et puis des news de Secret Invasion, mais pas grand-chose. Il y a eu quelques photos volées de tournage sur lesquelles on voit des acteurs qui avaient déjà été annoncés au cast, donc rien de vraiment très intéressant, c'est toujours prévu pour la fin de l'année. Et puis Ironheart, dont on n'avait plus parlé depuis un petit moment, donc la série sur Riri Williams, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Ouais, donc il y a une espèce de Iron Man mode teenager girl. Donc là, on a des news côté cast, puisqu'il y a un certain Anthony Ramos, que je ne connais pas du tout, qui rejoint le cast dans un rôle non précisé pour le moment. Donc voilà, c'est un petit peu maigre en news, hein. Vous voyez que là, malgré tout, on a passé quoi, 2 mois là, de news en quelques minutes. C'est un peu calme, on attend des annonces et on pressent évidemment, comme on enregistre le vendredi et que je vais monter ça le lundi, un trailer ce week-end, c'est plus que certain. Eh ben ça n'a pas loupé, hein. Salut c'est Fasque. Je fais un petit insert rapide dans le montage de l'émission. En fait, on a enregistré l'émission vendredi soir et on s'est dit, à tous les coups, Super Bowl, il va y avoir des trailers et on va l'avoir dans le popotin. Eh ben ça n'a pas loupé, hein. Donc il y a eu entre-temps un nouveau trailer de Doctor Strange in the Multiverse of Madness et un nouveau trailer de Moon Knight, on n'en parlera pas dans cet épisode-ci. On a déjà du gros contenu à développer côté Moon Knight, donc quelque part ça tombe plutôt bien, mais donc voilà, on fera le débrief complet de ce nouveau trailer de Doctor Strange in the Multiverse of Madness le mois prochain, au mois de mars, et pareil donc pour le nouveau trailer de Moon Knight, et avec un petit peu de chance, on aura encore des petites pépites côté trailer d'ici là. Voilà, je termine cette petite insertion et on reprend le cours naturel du podcast.
I am MODOK, I am science, I am genius.
I am Science, c'est notre séquence focus sur un personnage, une organisation ou un arc des comics, et on va parler, bien évidemment, mon petit Fox, de Moon Knight.
Eh oui, Moon Knight, ce grand personnage habillé tout en blanc qui fait peur aux méchants, donc il a été créé par Doug Munch et Don Perlin. Il est apparu pour la première fois dans Werewolf by Night, dont on a parlé tout à l'heure, numéro 32, en août 1975.
D'accord.
Et du coup, Moon Knight restera un personnage secondaire avec quelques histoires courtes le mettant en avant pendant à peu près 5 ans avant d'avoir sa première série solo, ainsi qu'une véritable origin story complète pilotée par Munch et Sienkiewicz en 1980. Et non, je précise ce qu'a écrit Thomas parce qu'il dit tiens, non, ça n'est pas Batman, putain.
C'est vrai qu'on a vu la comparaison assez souvent dans la presse à partir du moment où la série a commencé à être annoncé, c'est vrai que ça montre que bah, finalement on ne connaît pas grand chose aux comics quand on dit ça. Alors oui, je comprends, hein, la filiation graphique est éventuellement là quelque part, mais
il a pas d'oreille du personnage,
bon, quand même beaucoup d'aspects du personnage qui n'ont rien à voir. On va le voir tout de suite d'ailleurs, hein, puisqu'on va voir un peu ce qui est arrivé à ce bon Mark Spector.
C'est ça, Mark Spector alias Moon Knight, alias Jake Lockley, alias Steven Grant, alias Mr. Knight.
D'accord.
Est un homme originaire de Chicago où il a été élevé par son papa, un rabbin d'origine tchèque qui avait fui le régime nazi pendant son enfance à côté de son frère Randall, donc Randall, le frère de Moon Knight, donc qu'on va découvrir un peu plus tard. Il est harcelé donc Mark à l'école parce que ben, papa il est rabbin, et quand on est fils de rabbin, ben, on en prend souvent plein la gueule, notamment dans cette époque-là, et il se défend comme il peut. Il joue le plus souvent avec son frère à des jeux de guerre. Il s'éloigne petit à petit de l'école et de la voie religieuse que son père voulait lui faire suivre. Il va quitter les études pour se lancer dans une carrière de boxeur, ce qui va encore un peu plus l'éloigner de son papa. Et c'est à cette époque qu'il va commencer à montrer les premiers symptômes de troubles dissociatifs de l'identité qui vont l'amener à être interné en hôpital psychiatrique. Donc les troubles dissociatifs de l'identité, c'est notamment des personnalités multiples qui peuvent prendre le pas sur la personnalité centrale.
Ah, c'est marrant parce que, alors je fais une petite parenthèse, mais à la base c'est une invention purement hollywoodienne en fait, hein, c'est pas vraiment une maladie qui avait été reconnue, quoique depuis quelques années en fait, il y a débat autour de la question, mais c'est vrai qu'à la base, c'est pas quelque chose qui était reconnu par la profession des psychologues. Et c'était vraiment une invention purement hollywoodienne pour faire du drama dans les films ou dans les comics. Hein. Mais donc voilà, c'était juste pour préciser ça parce que c'est vrai que c'est un trouble dont on a quand même beaucoup usé dans les médias, que ce soit les comics, les films, les séries, etc. Donc voilà, je voulais préciser ça. Je te laisse continuer le focus.
C'est ça. Lors de son internement donc en hôpital, son père va tomber malade et décéder malheureusement. Et il va profiter de l'autorisation de sortie pour l'enterrement, pour fuir et s'engager chez les Marines. Donc il va être un excellent élément. Il va servir pendant 3 ans jusqu'à ce que ses supérieurs lui demandent une évaluation psychiatrique après avoir remarqué un comportement un peu bizarre. Il est rendu à la vie civile, mais il va être repéré par un des recruteurs de la CIA qui va vouloir en faire un agent déployé dans le cadre de missions secrètes, donc des Black Ops de la CIA. Il va participer à de très nombreuses missions à travers le monde, il va se forger une très bonne réputation, mais malheureusement un événement assez violent va l'opposer à son frère et lui faire prendre la décision de quitter définitivement la CIA pour devenir mercenaire à son compte. C'est là qu'il va rencontrer un certain Frenchy Duchamp en Afrique, qui va devenir son partenaire et ami. Ils vont enchaîner les contrats rapidement, les deux hommes vont amasser une jolie fortune, jusqu'au jour où ils vont être engagés par Raoul Bushman, un seigneur de guerre d'Afrique du Nord, pour trouver la tombe perdue d'un pharaon. Mark et Frenchy vont découvrir que Bushman a massacré tout un village pour obtenir ses informations sur l'emplacement du tombeau, ainsi que Peter Alron, qui est un archéologue qui travaillait pour lui. Spector va donc confronter Bushman pour protéger Marlène, la fille d'Alron, mais il est mortellement blessé par notre ami Bushman. Il va s'adosser à une statue et il va voir apparaître devant lui le dieu égyptien de la lune, Khonshu. Ce dernier va lui proposer de le ramener à la vie, à condition qu'il accepte de devenir son champion. Mark va accepter, il va venir à bout des hommes de Bushman, et Bushman parvient à s'échapper. Spector va revenir un peu à lui, il va d'abord être convaincu que l'apparition de Khonshu et sa guérison miraculeuse sont une de ses hallucinations mélangées à une grosse poussée d'adrénaline. Il va décider quand même de retourner aux États-Unis et d'embarquer la statue avec lui, accompagné par Frenchy et donc Marlène, donc la fille de l'égyptologue qui travaillait pour Bushman. Il va décider de profiter de cette seconde chance, entre guillemets, pour mettre ses compétences de mercenaire au profit de ceux qui sont dans le besoin, et il va créer l'identité de Moon Knight qu'il va financer grâce à sa fortune de mercenaire. Et il va développer aussi des personas, donc celle de Steve Grant, qui est un riche homme d'affaires, et celle de Jack Lockley, qui est un chauffeur de taxi, avec qui il va, avec ce personnage-là, il va mettre en place son réseau d'informateurs qui lui permettent de savoir ce qui se passe dans le milieu du crime et un peu partout en ville.
On est quand même un petit peu plus proche de Mister Robot que de Batman. Hein.
Il y a un côté plus Mister Robot que Batman, on est d'accord. Sauf que bon, si Mister Robot bastonnait comme ça, ce serait pas Mr. Robot, mais...
C'est clair. Alors, ça reste un personnage qui est quand même à cheval, hein, qui est oui. Très gris. Oui. Il va essayer de défendre un peu la veuve et l'orphelin, mais bon, on ne chasse pas comme ça sa vraie nature.
C'est ça. Il garde toujours une volonté de protéger ceux dans le besoin, mais son lien avec Khonshu va le transformer petit à petit en espèce de zélote, obnubilé par le culte de son dieu de la lune. Mm-hmm. Et en termes de pouvoir, ses capacités sont... Alors, elles sont souvent changées au fil des histoires et des auteurs. Parfois, il a une vision nocturne, et d'autres fois, il a une force qui varie en fonction des phases de la lune. Ça a été pendant un long moment, il était plus puissant à la pleine lune, il était moins puissant à nouvelle lune. Il y a plein de trucs qui marchaient là-dessus. La seule constante, ça reste la protection de Khonshu, qui va le ramener à la vie s'il y a besoin. Le rendant, théoriquement, il est immortel tant que le dieu juge nécessaire de le garder en vie. Donc Khonshu dit « j'ai encore besoin de lui, il est immortel ».
Alors on en a parlé, hein, un des points importants en fait de la personnalité de Moon Knight, c'est ce côté personnalité multiple justement, et donc sa santé mentale de manière générale. Alors il y a quelques petites précisions à faire par rapport à tout ça, Fox.
Oui, Spector, comme on l'a dit, il souffre de troubles dissociatifs de l'identité et non pas de schizophrénie, comme c'est parfois indiqué ou pas mal le pensent. Il n'est pas schizophrène, ce sont des troubles différents. Les premiers symptômes qu'il a eu de troubles dissociatifs sont apparus pendant dans sa jeunesse après avoir confronté un ami de la famille qui s'est révélé être un ancien nazi. Les nazis vont être un thème récurrent chez Moon Knight, on en parlera dans le trailer après. Ce traumatisme, ça a créé l'apparition de plusieurs identités qui se partagent et qui prennent tour à tour le contrôle de Mark au fur et à mesure de son existence en fait. Mm-hmm. Sa première rencontre avec Khonshu semble avoir altéré ce trouble-là en fait, parce que Khonshu lui-même se divise en 4 aspects qui se battent entre eux et parfois avec les autres personnalités de Spector aussi, et même parfois ils vont jusqu'à fusionner s'ils ont le même but. C'est-à-dire, si un but est similaire entre plusieurs personnalités, elles vont fusionner données pour prendre le contrôle.
D'accord.
Le seul trait positif découlant de sa condition mentale et de sa rencontre surnaturelle, c'est une résistance exceptionnelle aux attaques psychiques. Donc ça fait que tous les psychos de Marvel, c'est-à-dire même le professeur Xavier ou tous ceux qui ont de la télékinésie ou psychokinésie, ont beaucoup de mal à l'atteindre.
Je serais pas étonné que cette histoire de nazi dont tu parlais tout à l'heure, qui est quand même un truc très contemporain, hein, finalement, soit utilisée dans la série. Effectivement, on en parlera. Merci pour ce petit focus. Puis on va passer aux recommandations de lecture avec Archeon. Donc, côté Moon Knight, qu'est-ce qu'il y a de bon à se mettre en comics, hein?
Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai découvert le personnage assez tard, quand même. J'ai commencé à m'y intéresser assez tard. Donc, j'ai mis que des trucs relativement récents, histoire qu'on puisse quand même avoir une vision assez fraîche du personnage. Alors, le premier que j'ai mis, alors, ça a été réédité en 2007, mais c'est une histoire qui date de Marvel Knight, donc c'est pas si récent que ça, au final, parce que ça fait quand même plus de 20 ans, maintenant. C'est l'année 2000, ça s'appelle Moon Knight The Bottom. Ça a été écrit par Charlion Stone et dessiné par David Finch. Et ça fait un bon point d'entrée, parce que ça récupère un peu toute l'origine historique qu'on vient de citer pendant le focus. On l'a recontextualisé un peu comme Extremis avait fait avec Iron Man, justement, c'est un film. Donc, on garde les mêmes bases, hein. C'est, il n'y a rien de vraiment très, très innovant, mais c'est un peu plus modernisé, on va dire. Bon, par exemple, ils ont fait plutôt que d'avoir Spectre en engagé chez les Marines pour je sais plus quel conflit, là, ils l'ont redéplacé pour la guerre du Golfe, un truc un peu plus contemporain, ce genre de choses, quoi.
Ouais. Moon Knight, The Bottom, donc, et puis tu voulais nous parler aussi de Marvel Now, Moon Knight.
Marvel Now, Moon Knight, ouais, qui est le titre 2014, où là, j'ai vraiment commencé à découvrir le perso, qui a été écrit par Warren Ellis et dessiné par Declan Chalvet. Alors, dans l'histoire de Moon Knight, il y a un petit passage où il est parti avec les West Coast Avengers à Los Angeles, où il y a une histoire très marrante, où c'est un genre un one-man Avengers, qui est très, très cool. Mais là, on arrive un petit peu après, donc il retourne à New York, et il devient consultant pour la police sous le nom de Mr. Knight, qui est en fait la silhouette que je pense beaucoup de gens connaissent, où on a son costume blanc, comme on le voit dans le trailer. Mm-hmm. Mais là, par contre, il a un costard classique, un costard de ville, quoi.
D'accord.
Blanc, avec cravate et le masque. Mm-hmm. C'est le Moon Knight de ville, je l'appelle comme ça. Où il devient consultant pour la police, et là, on va se focaliser un peu sur l'aspect mystique de Khonshu, en fait.
D'accord.
Parce qu'il y a pas mal d'histoires de Moon Knight où on savait pas vraiment si c'était une hallucination, si c'est un vrai dieu, si c'est juste un truc mystique, on n'a pas d'explication. Donc là, Warren Ellis prend le temps de poser les bases de Khonshu, d'expliquer vraiment toute la religion autour de Khonshu, en fait.
Et puis tu voulais nous parler aussi d'une autre série Moon Knight dans la franchise All New, All Different Marvel.
Ouais, après Marvel, là, on a eu du All New, All Different Marvel, parce qu'il fallait faire des relaunchs un peu partout et avoir la ligne édito qui claque. Donc là, on est sur une histoire écrite par Lemire et dessinée par Greg Smallwood. Je pense que c'est une de celles qui a été le plus publicitée, qui est la plus connue, à mon avis. Qui est vraiment, déjà, rien que les couvertures sont magnifiques. Et pour ce qui est de l'histoire en elle-même, là, on va s'arrêter plus sur... alors, c'est le cas de toutes les histoires qu'on a présentées un peu avant, mais vraiment, Lemire, il fait le focus sur Mark Spector, en particulier sur Mark Spector et toutes les différentes personnalités qu'il a développées ou qu'il avait développées. En étant Moon Knight, en fait.
D'accord.
Et en ajoutant un petit détail qui était pas vraiment mis en avant jusqu'à présent dans sa bio, c'est que les troubles psychiques qu'il avait jusqu'à présent, nous on considérait que c'était quelque chose qui était dû à sa rencontre à Khonshun. L'émir décale un peu le truc en disant non, il était déjà comme ça quand il était petit, et c'est juste ça a chamboulé un peu la situation quand il a eu sa rencontre avec le dieu égyptien, en fait.
D'accord. Donc ça, c'est All New, All Different Marvel Moon Knight de 2016, et tu voulais encore faire une petite mention?
Ouais, une petite mention en fait sur un run en cours qui est écrit par John McKay et qui est dessiné par Alessandro Capuccio. Rien de bien dingue, hein. Ça a commencé, je crois qu'on est numéro 6 actuellement pour la publication VO. C'est juste que on l'a fait à présent pour les autres titres. À chaque fois, il y a un petit titre opportuniste qui vient passer. Voilà, celui-là est pas dingue. Si vous êtes curieux, vous pouvez y aller. Au moins, il est beau. Quelques couvertures sont belles aussi, mais c'est dispensable.
Eh ben, merci Thomas pour ces recommandations.
Avec grand plaisir.
Jarvis, drop my needle.
Jarvis, Drop My Needle, c'est notre pause musicale tirée du MCU. On va s'écouter un extrait de la bande-son de la série Hawkeye, avec tout simplement le thème d'Hawkeye, signé Christophe Beck et Michael Paraskevas.
Thank you.
Hawkeye's Team, tiré donc de la série Hawkeye Disney+, une bande-son très chouette signée Christophe Beck et Michael Paraskevas.
Went forward in time to view alternate futures, to see all the possible outcomes of the coming conflict.
How many did you see?
14,605.
How many did we win?
One.
Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre rubrique récap, théorie crafting et spéculation. Ben, pas grand chose à se mettre sous la dent à part le trailer de Moon Knight, bien évidemment. On pourrait commencer à spéculer sur Doctor Strange, mais c'est encore un petit peu tôt, on va se garder des cartouches pour les mois prochains. Mais donc, comme je le disais à mes acolytes hors antenne, Moon Knight, c'est un perso que moi je connais pas du tout. Donc c'est très difficile pour moi de spéculer, donc je vais jouer un petit peu les candides. Par rapport à ce qu'on a pu voir dans le focus tout à l'heure, bon, clairement, et on a le côté personnalité multiple qui visiblement s'affronte avec des objectifs différents, etc. Donc ça avait été quand même relativement hinté dans le trailer. D'autres choses en fait qui ressortent de ce trailer que vous voulez mentionner par rapport au personnage dans les comics, tout simplement.
Déjà, il y a un changement. Je sais pas si c'est son origin story qui est refaite, mais là, de ce qu'on voit dans le trailer, c'est pas Mark Spector en fait.
D'accord.
Apparemment, c'est plutôt Steven Gunn du coup,
mm-hmm.
qui lui aussi a changé, parce que Steven Gunn, comme on l'a vu dans le focus, normalement, c'est plus sa persona de businessman, un peu de golden boy, quoi, le mec qui a le fric, celui qui gère un peu le pognon de la franchise Moon Knight.
Mm-hmm.
Et donc là, apparemment, on a Steven Grant, je sais pas s'il s'appelle Grant, en tout cas, il s'appelle Steven, qui bosse au British Museum sur la partie égyptologie.
Ouais.
Et qu'ils auraient fusionné Steven Grant, qu'ils auraient passé un archéologue, ils l'auraient fusionné avec l'archéologue qu'on a dans son origin story pour la rencontre de Khonshu, je sais pas trop.
Ouais, ils sont peut-être simplifiés
un truc, ouais. J'ai plus l'impression que dans le trailer, il travaille au gift shop, en fait, et il se fait engueuler parce qu'il bosse au gift shop, donc ce serait plus... j'ai plus l'impression que c'est un Lockley, en fait, que...
Oui, peut-être, ouais.
Ils ont fusionné Steven et Lockley, j'ai l'impression, ouais.
Ben, en tout cas, ouais, apparemment, déjà la différence se fait là, il y a un amalgame de pas mal de persos, apparemment, qui est fait sur la série, d'après ce qu'on voit. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas trop. Mais ça y ressemble, ouais. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il sait pas qui est Mark Spector, apparemment. Donc, qu'il a déjà rencontré, il a déjà été Moon Knight? On a pas vraiment une origin story. On a plus, genre, les fractures de ces différentes personas qui l'ont un peu cloisonné de son passé de Moon Knight et il est en train de le retrouver petit à petit. Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a pas l'air de savoir qui est Mark Spector.
Question très candide, encore une fois, de quelqu'un qui a pas lu les comics. Est-ce que ce côté, les personnalités ne savent pas ce que font les autres, c'est quelque chose qu'on a dans les comics aussi? Parce que c'est l'impression que m'a donné le trailer, en fait, qu'il y a ce côté, il découvre ce qu'a fait son alter ego par la suite, mais il n'y a pas de conscience, en fait, collective, je dirais.
Alors, ça dépend des versions. Il y a des versions où, justement, on en a parlé, mais Grant assure le côté financier et les investissements. Lockley crée un réseau d'informateurs qui est utile à Moon Knight. Il y a des trucs sur lesquels il collabore, mais il y a des moments où, enfin, il y a d'autres personnalités qu'on voit très peu et qui ont quasiment disparu ou qui sont même pas nommées, qui, elles, essayent de protéger, si tu veux, d'avoir une vie normale. Donc, il est possible que ce personnage de Steven soit... la persona qui veut être normale et qui veut juste qui veut pas d'ennui, en fait, qui essaye de se soigner. Par contre, Mark Spector, il est Moon Knight, donc lui, ça devrait être le principal. On pourrait faire un rappel avec Jane de Doom Patrol, qu'on adore tous les deux, par exemple.
Ouais, tout à fait, ouais. Ça me
là, par contre, voilà, ouais. Y a un côté très Jane de Doom Patrol, mais les autres personas communiquent entre elles, et il y a un leader bien défini. Tandis que là, c'est très alternatif. Ça dépend des périodes. Comme disait Arkean tout à l'heure, quand il est en Mr. Knight, par exemple, c'est plus un enquêteur qui a de la police. Il y a l'aspect très mystique autour de Khonshu. C'est presque un prêtre de Khonshu. Alors que quand il est en Moon Knight full berserk, Mark Spector pète un câble, notamment contre le Taskmaster. C'est ridicule, quoi. C'est juste de l'ultra-violence. Et c'est vraiment un exécuteur. Donc, il y a ces personnalités séparées. Et ce qu'on va voir dans le trailer, pour ceux qui nous écoutent, c'est important. Si vous le matez en même temps que nous, regardez bien les reflets, parce qu'il y a énormément de reflets qui sont projetés d'Oscar Isaac, et tout est un multiple de 3 à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a Oscar Isaac en premier plan, et à chaque fois, il y a 2 reflets.
On est dans le très symbolique, du coup.
C'est extrêmement symbolique, c'est bien masqué, j'ai dû le revoir plusieurs fois, parce que j'ai eu un doute à un moment, on va le voir à peu près au premier tiers du trailer dans le British Museum. Il y a un moment, il passe devant une vitrine du musée, tu vois, de nuit, avec une momie, et il y a 2 reflets d'Oscar Isaac et une ombre. Et il avance, l'ombre disparaît, les deux reflets ne bougent pas au même moment et ils n'ont pas la même expression faciale. C'est totalement ouf. Donc tout est masqué, mais tu vois qu'il y a trois personnalités principales pour l'instant. Donc il doit être Steven, parce que c'est pas Mark qu'on voit dans le musée, donc c'est Steven. Mark et le troisième, je sais pas qui c'est. Est-ce que c'est Grant? Est-ce que c'est Loki?
Peut-être un amalgame de plusieurs, effectivement, comme disait Thomas, hein, c'est un truc qu'ils ont déjà fait, et puis histoire de simplifier peut-être un peu la narration aussi, et voilà, partir dans tous les sens. Bon, alors, on a aussi une première vue sur le personnage incarné par Ethan Hawke. Alors, on en reparlera le mois prochain dans le focus, puisqu'on fera un focus notamment sur lui. Donc, c'est le personnage de Arthur Harrow, qui est pas un personnage super, super méga présent dans les comics, hein, j'ai l'impression.
On l'a vu une fois, il y a très longtemps. C'est un Arthur Harrow, normalement, dans le comics, c'est un savant fou.
C'est un culte, enfin un leader de culte en fait. Je vois qu'il est inspiré en fait de David Koresh, qui était donc les Davidian, hein, au Texas.
Les Davidian de la secte
et,
de Waco. Tout
c'est
à fait.
Un mix en fait entre David Koresh et le psychiatre Carl Jung. Donc voilà, c'est un manipulateur de foule, un leader de culte.
Mais il y a un truc particulier par rapport à Harrow, et ça c'est on en parlait tout à l'heure, mais Harrow dans le comics, c'est un scientifique fou qui avait trouvé des recherches des nazis et qui voulait supprimer la douleur physique et mentale des gens, mais pour ça il est torturé pour faire des trucs totalement dégueulasses. Et du coup Ethan Hawke qui que je trouve ultra effrayant comme ça, est un leader cultiste. On le voit dans cette scène où il est devant justement les gens, tu vois. Et on est en Allemagne ou en Autriche, parce que c'est écrit en allemand partout. Les mecs autour de lui, il y a deux cultistes habillés comme lui mais avec des espèces de jackets sans manches, doudounes sans manches, avec des fusils. Les gens sont complètement... Oui, c'est des cultistes, enfin, ils sont sous emprise. Par contre, il y a un truc qui est un peu surprenant, c'est qu'il a l'air, j'ai l'impression qu'il voit, enfin, il sait que Mark a une personnalité multiple.
Ah, c'est possible, ça m'a pas.
Il lui parle de chaos et il a une espèce de.
Bah, si c'est un personnage inspiré d'un psychiatre, on peut parfaitement envisager que la connexion se fasse au niveau de. Je sais pas si c'était le cas dans les comics, hein, peut-être que je dis une bêtise, mais que Spector, enfin, ou une de ses personnalités décide d'aller voir un psychiatre et qu'il tombe sur lui et que ce soit la rencontre, en fait. Bon, c'est un peu cliché, le côté psychiatre qui manipule son patient, mais bon, c'est des comics de 75, donc je peux leur laisser
ça,
quoi.
Il y a cette scène qu'on a quasiment à la fin du trailer où justement Arthur Harrow lui dit « There's chaos in you ». Il dit « There's chaos in you » et il a ce chaos en lui, il le voit. Mais juste après, on a cette scène de Isaac qui se frappe la tête et qui pousse des hurlements dans une chambre blanche, immaculée. On est à 1:24 à peu près.
Ouais, je vois.
Et tu vois quelqu'un qui le regarde en face avec les cheveux courts et je ne serais pas étonné que ce soit Arthur Harrow. Alors, est-ce que c'est un psychiatre? Est-ce que c'est un simple infirmier psychiatrique qui est devenu aussi fou que Spector, c'est possible. Puis après, on a cette scène de course-poursuite qui est totalement débile, puisque Steven se réveille dans le camion avec le flingue à la main.
Un petit côté Memento.
C'est ça, c'est le côté Memento. Et puis surtout, moi, ce qui m'a fait hurler de rire, c'est les mecs de Reddit, évidemment, pardon, mais je fais un aparté là-dessus, où ils ont vu les cartons et marqué Von D, et ils ont tous pensé Victor Von Doom. Non, bande de cons, parce que quelques secondes après, tu vois que c'est un truc, c'est d'Urlausen, un truc comme ça, c'est des gâteaux, quoi. C'est des cakes.
C'est pas le genre de truc qu'ils auraient révélé de toute façon dans un trailer, donc faut pas trop.
Et puis on a cette scène incroyable de Oscar Isaac qui tombe dans le vide, et derrière on revient sur l'Égypte ancienne, en fait.
Je te coupe vite fait parce que t'enchaînes depuis tout à l'heure et je voulais passer quelque chose.
Ah bah dis-nous, coupe pas.
Ouais, mais j'ose pas, t'enchaînes dans ça.
Il faut couper les gens. Vas-y.
Donc du coup, c'était pour la partie Ethan Hawke. Moi, je me suis pas trop renseigné un peu sur les rumeurs qu'il y avait actuellement pour son perso, et d'avoir rematé le trailer juste avant, mais il me fait plutôt penser à un personnage qui s'appelle Sun King, qui a été introduit très très récemment. C'est un personnage qui doit être de 2016-2017 dans un run Moon Knight, justement. On sait pas trop, je crois qu'il a pas de prénom, on l'appelle le Patient 86 ou Sun King, je crois qu'il a pas de prénom et pas de nom de famille, et qui a grosso merdo exactement le même parcours que Mark Spector, en fait. Qui est un mec qui a une jeunesse un peu merdique, qui a plaqué les cours, qui s'est engagé à l'armée, qui a des problèmes psychologiques aussi. Je crois que lui, par contre, il a pas des troubles dissociatifs, mais je crois qu'il est bipolaire ou schizophrène, un des deux, enfin bref, on pourra vérifier après. La seule différence qu'il a, c'est que lui, il est pas possédé par l'esprit de Khonshu, il est possédé par l'esprit du dieu Ra, en fait.
Ouais.
Donc c'est vraiment deux phases d'une même pièce, parce que Khonshu, c'est la lune, Ra, c'est le soleil.
C'est ça.
Il y en a un qui a des pouvoirs pyrokinésiques, l'autre, il a pas grand chose à part être quasiment immortel. Je sais pas, ça ressemble de plus en plus, enfin, moi, ça me fait vachement penser à ça.
Ils ont fait un mix entre, par contre, de mémoire.
Alors je pense pas qu'ils aient fait un mix, moi, vraiment, je pense qu'ils ont pris le personnage de Sun King, en fait. Parce que c'est quand même, quand tu lis dans les comics, c'est quelqu'un qui est très composé, qui parle calmement, qui s'exprime correctement, qui fait attention, sauf que quand il pète un câble, il pète un câble, quoi. Et du coup, la phrase que t'avais retenue, quand on disait « I sense chaos in you », je pense que justement, c'est ce...
Oui, ils
étaient peut-être... Les deux ont dû être internés en même temps, ouais, se connaître, etc. Dire.
Peut-être qu'ils se sont vus, ouais.
Du coup, ça me fait plus penser à Sun King, en fait. Enfin, sur les indices qu'on a, ça me fait vachement penser à Sun King.
C'est pas con. Bah, du coup, ça nous ferait une claire opposition entre le soleil et la lune et tout, donc oui.
Ça se tient. Moi, je dis, vu de mon regard de profane, effectivement, c'est une théorie qui se tient. Moi, je l'avais pas du tout repéré, vu que je connais pas le perso, mais bien vu. D'autres choses que vous voulez soulever par rapport à ce trailer, des petits indices qui auraient pu être laissés sur des choses qu'on ne savait pas encore vraiment.
Mais du coup, j'ai interrompu Fox qui parlait de la course poursuite. Je sais pas si t'avais quelque chose à rajouter.
Non, la course poursuite, elle nous ramène après en Égypte et là, on revient dans les grandes pyramides et il y a cette scène avec les lanternes, les flambeaux allumés. Et il y a un truc assez bizarre, c'est que tu le vois avec une veste. Alors tu sais pas si c'est Marc ou si c'est Steven. Il a cette veste un peu chelou. Et juste derrière, tu le vois se mettre à courir au British Museum en mode terrifié, en piquant quelque chose. Donc c'est probablement la statue qu'il a piquée, donc la statue de Khonshu en fait. Et après, on voit sa transformation, et là, on le voit tabasser une espèce de créature. Alors clairement, j'ai pensé que c'était au début un monstre ou un truc comme ça, mais vu les oreilles pointues, les jambes inversées et tout, j'ai l'impression qu'il a tabassé Anubis en fait.
Et si c'était un vampire, et si c'était une porte d'entrée pour les vampires dans le MCU? Non,
non. Enfin, je pense pas que ça, c'est pas un vampire ce qui tabasse. Hein. C'est typiquement.
Bah, je sais pas, ça peut être un super vieux vampire, tu sais, déformé. Bah,
non, parce qu'il a des oreilles de clébard, il a un museau allongé. C'est typiquement, ça ressemble à. Alors, j'ai pensé que ça pouvait être une figure de Seth, mais non, parce que Seth, c'est un fourmilier, donc c'est probablement quelque chose, un guerrier d'Anubis ou un gardien d'Anubis, donc à tête de chacal, corps desséché, machin. Mais c'est très bizarre quand même que tu aies cet aspect surnaturel.
Ouais.
Alors, est-ce qu'il est juste en train de péter un câble et c'est une de ses visions. Est-ce que c'est un serviteur ou quelqu'un? Enfin, on le voit se transformer. Et d'ailleurs, justement, sur la scène où tu le vois se transformer, si tu fais pause à 1:39 au moment où il se transforme, t'as quelqu'un qui le mate derrière. Ça m'a fait capoter, parce que je l'ai vu qu'à la quatrième ou cinquième fois. Parce que la transformation, je trouvais qu'elle était très spawnesque, avec, tu sais, les espèces de bandelettes qui le recouvrent. Et tu regardes derrière l'arche à droite et tu vois un mec en costume avec une cagoule, comme si c'était...
C'est pas un body bag, en fait.
Bah non, c'est pas un body bag, c'est un truc debout, en fait. Ça ressemble à un body bag, en fait.
Quand tu le vois derrière, quand ça zoome dessus, ça ressemble plutôt à un body bag, soit une espèce de costume qui est accroché, je vois pas ça comme une silhouette,
À une 39, c'est une silhouette, quand même.
Non,
j'aurais une statue, en fait, parce qu'il est dans un jardin, quand même.
Peut-être une statue, mais je sais pas.
C'est ancien. Mais par contre, le personnage qui tape à la fin, j'ai vraiment l'impression que c'est le... C'est Khonshu, en fait, parce qu'on voit, il y a un plan
Khonshu,
un peu plus tôt
Khonshu,
dans le trailer.
Non, Khonshu, il a une tête, Khonshu, quand tu le vois dans, un peu plus tôt dans le trailer, il a une tête en os. Il a une tête en os, Khonshu. C'est la représentation de Khonshu, c'est une tête d'oiseau mort. Et là, tu vois qu'il y a des oreilles. Tu le vois, si tu zoomes à 1:41, tu zoomes un peu, tu vas voir qu'il a il tabasse quelque chose avec des oreilles, en fait. Et un museau. Donc, c'est chelou, mais je sais pas pourquoi, mais ça pourrait être plutôt cohérent dans le sens où, si on part de Moon Knight plus, Sun King, donc tu as la lune, le soleil et le dieu des morts, puisque il y a un truc au tout début au magasin du musée où la meuf un peu chelou, là j'ai plus son nom, elle se moque de lui, elle l'appelle Stevie, elle l'appelait Steven en lui faisant des gros wink wink un peu creepy. L'une des boîtes de jeux qui vend, c'est un puzzle du livre des morts. Le livre des morts, c'est le livre des rituels d'Anubis pour justement passer en jugement devant Ra, donc Horus, Amon-Ra Horus. Donc ça pourrait être ça aussi.
Ok, bah écoute, je pense que là on va déjà très loin et je pense qu'on aura de toute façon d'ici la sortie le 30 mars un nouveau trailer qui en dévoilera un peu plus. D'autres choses à rajouter avant qu'on conclue cette phase de theory crafting?
Juste rajouter que l'utilisation du son de Kid Cudi Day and Night derrière, c'est du pur génie.
Oui,
vraiment du pur génie, parce qu'il y a quelques similarités qu'on peut trouver avec le clip Day and Night, du coup, qui est vraiment chouette. Même les thématiques sont assez proches. Parce que clairement, la thématique du trailer, de toute façon, c'est les personnalités multiples de Mark Spector, Steven, etc. On le voit d'un stop. Le fait qu'il soit enchaîné à son lit, ça veut dire qu'il sait qu'il y a des choses qui se passent quand il dort, que quelqu'un d'autre prend possession. Enfin, tous les détails sur les reflets, ce genre de choses. Donc ouais, il y a un parallèle qui est fait avec le boulot de Kid Cudi.
Il y a le truc, c'est au tout début du trailer, il y a un bouquin qu'avait cité Kid Cudi quand il a fait des interviews sur l'écriture de ce morceau, et ils ont mis le même bouquin, Voyage de Sol, un truc comme ça, qui au tout début, quand il saute de son lit, qu'il y a la pile de bouquins, et le bouquin, on le voit en bas à droite, il essaye de l'attraper et on le voit juste après, en fait. Et c'est un bouquin qu'avait, dont avait parlé Kid Cudi. Donc, il y a vraiment un raccro où les mecs sont allés jusqu'à utiliser, tu vois, ces thématiques musicales et les intégrer vraiment dans la recherche de la réalisation. Je trouve ça assez fifou, en fait. C'est pour ça que je suis très, très chaud, parce qu'il y a du vrai travail, quoi. Du vrai bon boulot dessus.
On en reparlera, de toute façon, le mois prochain. Puis, le mois prochain, on fera un peu le focus sur d'autres personnages de la franchise Moon Knight, histoire de caler un petit peu tout ça avant de pouvoir voir la série. Mais pour l'heure, je vous propose qu'on en reste là qu'on passe à la rubrique suivante.
Excuse me, Mr. Stark. Christine Everhart, Vanity Fair Magazine. Can I ask you a couple of questions?
Hi.
Hi.
Yeah.
It's okay?
Okay, go.
Et c'est l'heure de notre rubrique courrier. On reprendra le Marvel Insiders, le petit moment analyse débat, peut-être le mois prochain, on verra un peu en fonction de l'actu. Donc côté courrier, on n'a pas eu grand chose de neuf, ou en tout cas pas des choses dont on n'a pas déjà parlé à mon avis. On a quand même noté deux questions, celle de Johnny Ivar qui nous demande, j'ai lu quelque part mais je ne sais plus où, que Marvel et Sony seraient encore ensemble sur l'écriture des trois autres Spider-Man. Savez-vous si c'est vrai ou faux? De mémoire, c'est une déclaration de Pascal, Amy Pascal. Voilà, qui rate jamais l'occasion de raconter des choses qui ne sont pas forcément vraies. Et derrière, si je me souviens bien, il y avait eu des déclarations semi-officielles de Sony en disant on va y aller mollo, on n'y est pas encore, mais on y pense. Donc voilà, pour le moment, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop ce que va devenir la franchise Spider-Man, en tout cas côté ciné. On sait qu'il y a un dessin animé qui est prévu sur Disney+, côté Marvel Studios, mais pour la franchise ciné, vraiment, j'ai pas d'idée. En tout cas, pas plus que ce dont on parlait déjà il y a deux mois quand on a fait le débrief de Spider-Man No Way Home. Et puis une autre question de Julien B qui nous demande quel est le contenu MCU, série ou film confondu le plus attendu pour vous en 2022 et quel est le contenu 2022 qui vous hype le moins. 2022, moi clairement c'est Doctor Strange qui me chauffe le plus là pour le moment, côté ciné, côté série Moon Knight clairement, et puis le reste je sais pas trop ce qui va sortir cette année, donc c'est un peu difficile de se prononcer. Et pour le reste, moi, c'est Doctor Strange et Moon Knight qui sont pour le moment en haut de mes attentes. Et vous, de votre côté?
Moi, techniquement, en ciné, c'est je suis très partagé entre Wakanda Forever et Multiverse of Madness. Aussi, j'avoue que Multiverse of Madness va fermer une partie de l'arc initié avec WandaVision, donc je suis très très chaud. Et ce qui me hype le moins pour l'instant, c'est terrible, mais c'est je sais plus s'il a été repoussé, c'est Thor Love and Thunder en fait.
Non, il a pas été repoussé. Il était toujours prévu pour 2023, il me semble. Il a été repoussé comme tous les autres, je veux dire, mais pas récemment en tout cas. Il est toujours prévu pour début 2023, si je dis pas de bêtises.
Je crois que c'était juillet 2022, tu vois, je sais plus.
Déjà cette année?
C'est juillet 2022, Thor Love and Thunder.
D'accord, je suis complètement à la ramasse.
C'est ça, 6 juillet, en fait. 6 juillet, Thor. Doctor Strange en mai, Thor 6 juillet, Miss Marvel l'été, She-Hulk courant 2022, Moon Knight ça arrive. Moon Knight il a été avancé parce que normalement il était pour le second semestre au départ.
Ouais, c'est parce que Miss Marvel a été reportée.
C'est ça, ils ont inversé. Et normalement, il y a Guardians of the Galaxy Holiday Special, mais ce qui m'hype le moins pour l'instant, c'est Thor, bizarrement, parce que il y a deux licences que j'aime à côté. Donc,
écoute, Thor me hype quand même plutôt pas mal. Je dirais que moi, c'est Miss Marvel, c'est cette année-ci aussi déjà.
Miss Marvel, normalement,
les Marvels, c'est une série. Je suis curieux de voir. En fait, ça va vraiment beaucoup dépendre de Miss Marvel, en fait, ce que va donner le film de Marvel. Enfin, en tout cas, ce que ça va générer comme attente pour moi par rapport au film de Marvel. Je vais d'abord voir ce que donne la série. Et toi, Thomas, une grosse attente et un gros truc qui te laisse bof maintenant que Spider-Man est passé?
Oh, c'était facile.
Oui. Baby Donner.
Il est déjà passé, vu que j'ai vu deux fois de suite. C'est con, peut-être. Une grosse attente. Bizarrement, moi, je dirais que la grosse attente, c'est Love and Thunder, mais c'est pas tant une attente côté hype. Mm-hmm. C'est plus, c'est pour moi le truc casse-gueule qui arrive en 2022, un peu.
Ouais.
Parce que j'ai un peu peur qu'ils reprennent la même formule que Ragnarok, qui m'a fait marrer, mais deux fois de suite.
Oui, ça risque d'être un peu,
ouais, ça risque d'être un peu lourd. Donc, je dirais que c'est ça. Donc, plutôt attendre ce que ça va donner. Et en déception, je pense que je vais placer le Holiday Special, dont j'ai honnêtement pas grand chose à foutre.
Ouais, et c'est vrai que les derniers trucs de James Gunn m'ont pas trop convaincu, là, entre Suicide Squad, qui m'a vraiment pas du tout hypé, pas du tout plu, Peacemaker, où j'ai vraiment du mal. Je suis vraiment un petit peu inquiet pour tout ce qui arrive là sur les Guardians, donc ouais.
Après, c'est difficile,
il y a ça et. Bah, mais c'est en dehors du DC, Peacemaker, enfin, on va pas s'étaler là-dessus, mais il y a des bases qui sont quand même super intéressantes. Cena s'éclate, mais c'est, j'ai l'impression de revoir du Gun pour la 20e fois.
Ouais, c'est un peu toujours pareil.
Et
ouais.
Après, moi, le Holiday Special, donc il y a effectivement ça qui rentre un peu en compte, mais c'est surtout que tu peux coller du Marvel, du Star Wars, de tout ce que tu veux comme sujet sur un Holiday Special, ça reste un Holiday Special et c'est le format qui m'énerve le plus possible. Donc bon, je dirais que c'est ça.
Ok. Bon, ben voilà, c'est la fin de cette rubrique courrier. Je vous propose qu'on passe au Quantum Trip.
Are you talking about a time machine?
No. No, of course not. No, not a time machine. This is more like a... Yeah, like a time machine.
Retour sur l'épisode 26 dans ce flashback, donc Quantum Trip, comme on fait tous les mois maintenant. Bah, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. En fait, on reparlait de mémoire des pierres de l'infini. On essayait toujours de savoir un petit peu où allaient arriver les dernières. Et finalement, bah, on pensait que la Soul Stone, finalement, ce serait bien Infinity War. Donc voilà, ça s'était bien vu. Et pour le reste, bah, on faisait les premières spéculations sur Homecoming. Donc c'est qu'à l'époque, on était juste avant la sortie, j'imagine, et qu'on commençait à réfléchir un petit peu à ce qu'ils allaient nous réserver du côté de chez Sony, et notamment on se demandait si Vulture allait être le principal Big Bad ou s'il allait y avoir un Green Goblin derrière.
Moi j'ai très peur d'un truc, c'est très bête hein, mais j'ai peur qu'on reparte sur un arc mélangeant de Vulture et le père Osborn. Et ça me terrifie de voir, parce que honnêtement Michael Keaton, au niveau des traits, au niveau du visage, avec une coupe de cheveux comme elle était dans les comics dans les années 80, ferait un excellent Norman Osborn, meilleur que Willem Dafoe, je veux dire, même si j'aime bien Willem Dafoe, physiquement il se ressemble pas à des masses quoi. Mais j'ai peur qu'on se retrouve avec un duo Vulture Green Goblin.
Ouais.
Et ça me ferait chier parce qu'on l'a déjà bouffé il y a 10 ans avec les films Sony, qui étaient pas mauvais. Au final, les premiers, trois premiers Spider-Man n'étaient pas, le troisième n'était pas terrible, mais les deux premiers étaient plutôt bons. Donc, j'aimerais bien que ce soit Michael Keaton en Vulture, qu'on ait un véritable axe sur le jeune Peter Parker sous la tutelle de Stark, qui devient le véritable Spider-Man, le héros adoré des New Yorkais, et qu'il ait sa première épreuve. C'est son baptême du feu, c'est son passage à l'âge adulte. C'est un moment important, puisque c'est le moment où il revient dans Marvel, Marvel Studio. Donc il faudrait quelque chose d'un peu couillu, et en même temps conserver l'humour du Spidey que, qu'on aime dans les comics, c'est-à-dire le, ce perso un peu détaché, détendu, qui fait beaucoup d'humour, qui est toujours à côté de la plaque. Donc sans trop pousser non plus, il faut pas que ce soit Deadpool, hein, mais ils ont ce côté-là, il a ce côté-là que tout le monde aime, donc j'aimerais bien qu'il nous axe ça comme ça, proprement, avec un Big Bad qui est le Big Bad du tout premier Spider-Man.
C'est ça, c'est son Big Bad original. Ouais.
Oui, c'est le tout premier numéro, c'est lui avec la couverture du Vulture, donc tu peux pas le rater.
Voilà, petit taquet au passage à Willem Dafoe de la part de Fox, hein, qui trouvait que le Green Goblin n'était peut-être pas voilà, le meilleur. Est-ce qu'il s'est rattrapé depuis dans No Way Home pour toi ou quoi?
Alors, je me suis refait les anciens Spidey, pour te dire. J'ai vu Spidey. J'aime le personnage, mais pas à l'époque. Moi, je voyais Norman Osborn. C'est vrai que Keaton aurait été un excellent Norman Osborn parce qu'il était beaucoup plus sombre, beaucoup plus cynique, en fait. Ils ont choisi de faire de Willem Dafoe un Green Goblin beaucoup plus goblinesque, beaucoup plus axé sur sa folie furieuse de destruction. Il est très bien. C'est un acteur formidable, Willem Dafoe. On peut rien dire là-dessus. Par contre, comme je le note aussi, j'avais dit à l'époque que Michael Keaton, je le verrais bien en Vulture et qu'il serait très très bien. Je suis content de voir que oui, il était très très bien en Vulture.
Non, clairement. Bah, c'est un bon acteur, hein. Michael Keaton, il n'y a rien à faire.
C'est aussi Batman,
oui. Décidément, on n'aura pas assez du Batman à toutes les sauces. Hein.
Non, mais c'est Batman. Moon Knight.
Et c'est la fin de ce 86e épisode des Clairvoyants. On espère qu'on vous en aura appris un peu plus sur Moon Knight et toute sa clique. Enfin, la clique, ça sera pour le mois prochain. Et puis qu'on aura bien débriefé le trailer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous les poser sur Discord, via Twitter ou encore dans les forums de Geekzone. On vous rappelle l'existence d'un thread d'ailleurs dédié au MCU et puis de petits threads dédiés aux différentes sorties pour éviter de spoiler les gens qui n'ont pas encore eu l'occasion de le voir. Et puis on vous rappelle aussi l'existence d'un Patreon Geekzone. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire à partir d'1€ par mois. mois et en échange on vous file des petits bonus comme la pause comics hein, qui est un rendez-vous mensuel de Thomas où il nous fait des recommandations de lecture pas uniquement chez Marvel, un peu partout en comics et voilà, si vous êtes abonné Patreon c'est tous les mois et c'est un petit rendez-vous exclusif. On se retrouve le mois prochain pour continuer à débriefer un petit peu l'univers de Moon Knight et puis peut-être qu'on aura un nouveau trailer d'ici là si tout va bien ce week-end comme je le disais tout à l'heure. On vous fait des bisous et on vous dit au mois prochain. Ciao ciao ciao.
Ciao. Bisous tout le monde.
Podcast signé Faskill. Faskill.com.
L'horréfaction, c'est votre rendez-vous hebdomadaire sur geekzone.fr avec une sélection de l'actualité proposée par Caféine et Faskill. Gaming, culture, software et tech ont fait le tri dans les news de la semaine pour vous proposer un récap digeste d'une demi-heure, histoire de ne rien louper des infos essentielles. L'horréfaction, c'est votre rendez-vous avec l'actu geek tous les vendredis matins à 8h sur geekzone.fr.